Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Non seulement nous pouvons tous le croire, mais nous savons qu'il en est ainsi. Et nous savons aussi qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Pas aujourd'hui, puis demain, puis un peu ici et là, mais il nous a aimés de toute éternité. Amen. Dieu ne suit jamais le vent, les vagues et le temps. Chez lui, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'humeur comme quand on rentre de travail de nuit ou qu'on n'est pas bien dormi. Chez lui, tout est constant. Il nous a aimés éternellement et cela demeure ainsi. En tant que des hommes, nous devons être suffisamment honnêtes car nous ne sommes pas encore pleinement dans la condition divine et nous devons admettre que nous sommes tous limités. Mais parce que nous le savons, Dieu peut nous aider. Si nous ne le savions pas, et si nous nous trompions à ce sujet, alors nous ne pourrions pas être aidés. Je crois qu'il n'y a pas de sujet sur lequel on est autant prêché que sur l'amour de Dieu. Et on pourrait, je crois que Frère Branham l'a mentionné quelquefois, on pourrait dire, oui, si on donnait, oui, une plume à tout le monde et que la mer tout entière était de l'encre et que chacun écrivait avec le ciel d'un bout à l'autre comme parchemin, alors l'océan serait vide et tout ne serait pas encore écrit et l'amour de Dieu n'aurait pas encore été exprimé par tous ceux qui écrivaient. Et si nous considérons cela, que Dieu nous a donné à nous, pauvres éléments, pauvres hommes qui sont, oui, pourtant en soi constitués de 16 éléments qui composent notre corps et du peu d'esprit qui s'y ajoute, qu'est-ce que l'homme? Et cela est récemment devenu très grand pour moi. C'est en effet écrit dans ce même verset ici. Est-ce que nous avons considéré ce passage mercredi soir? Qu'est-ce que l'homme? Et qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu le considères? Selon Psaume 144, verset 3. Là, l'homme est déjà mis en relation avec le fils de l'homme dans l'Ancien Testament. Et si Dieu ne nous avait pas considérés et acceptés en Christ, il ne nous aurait pas considéré, nous serions à côté. Mais l'amour de Dieu a été manifesté par le Golgotha et par la rédemption. On peut, si on lit spécialement les épîtres de Jean, c'est le thème principal et on peut toujours le constater. Mais la question est la suivante. Comment en arrivons-nous à ce qu'il n'y ait plus de pluie de la première et de l'arrière saison ou de changement de temps. Vous savez que l'on peut aussi prendre cela spirituellement et que nous arrivions à ce que rien ni personne ne nous empêche dans quelque circonstance que ce soit de mettre l'amour de Dieu. Oui. À l'épreuve. Vous dites que ce n'est pas facile. Oui, c'est peut-être vrai, mais si l'amour de Dieu nous presse ainsi, si il est en nous, alors ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, mais c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et alors, c'est aussi la puissance de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. Alors, ce n'est plus nous qui sommes vus ou ce n'est plus à nous qu'on demande quelque chose. Ici, Jean l'a exprimé très clairement dans son épître 1 Jean chapitre 4, se référant probablement à Jean 3 verset 16, parlant de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est engendré de Dieu, ou né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu pour nous s'est manifesté. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous sommes aussi tenus de nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu, mais cependant, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure continuellement en nous et son amour est parvenu à la perfection en nous. Amen. Ici, chaque parole, chaque phrase est d'un poids énorme. C'est à la fois un miroir dans lequel nous pouvons nous contempler, une balance sur laquelle nous pouvons nous laisser peser, et s'il ne faudrait pas dire peser et trouver léger, selon Daniel 5, verset 27. C'est une mesure que nous devons accepter. Et celui qui refuse de laisser appliquer cette mesure divine à sa vie, ne pourra pas subsister devant Dieu. Comme notre frère l'a dit, le Seigneur a de si bonnes intentions envers nous, mais il est aussi très sérieux. Dans la bonté de Dieu, le sérieux de Dieu est aussi contenu. Lorsque Dieu, le Seigneur, a dit au commencement, le jour où tu en mangeras, tu mourras, selon Genèse 2, verset 17, vous pouvez comprendre que Dieu a aussi ressenti, mais ce n'est que lorsqu'il est véritablement venu dans la chair, qu'il a pu mesurer et prendre sur lui et au-dessus de lui ce ressenti total de ce qui nous est arrivé. Dans son état spirituel ou d'esprit, son amour l'a certes poussé, mais rien ne s'est mis en mouvement, rien n'a bougé. 4000 ans se sont écoulés, mais lorsque l'amour de Dieu s'est fait connaître, alléluia, il s'est révélé aux hommes sous forme humaine, non pas pour condamner, mais pour racheter en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et si nous le disons ainsi, vous savez bien que nous croyons en l'unité de Dieu et ce à 100%. Et de la même manière, nous croyons chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Personne ne me fera changer d'avis jusqu'au dernier jour de ma vie. Par exemple, lorsqu'il est écrit ici, et également dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'il s'agit d'un fils ou du fils engendré, les pères des églises se sont cassés la tête pour savoir ce que cela pourrait bien être. Mais celui qui est simple, aussi simple que moi, n'a eu aucun mal à le saisir. Oui, il n'y avait pas deux personnes impliquées, il y en avait une seule, Dieu lui-même. Et Marie n'a ressenti aucune sensation, rien du tout. C'était l'action de Dieu tout seul. Le Fils engendré de Dieu était manifesté. Eh bien, nous n'allons pas entrer dans les détails à ce sujet, mais ce passage biblique, je ne pense pas qu'il y a un autre qui résume ainsi une phrase après l'autre. Et dans chaque verset, tant de choses sont exprimées. Et vous savez que nous sommes frappés par le premier verset, le premier mot du verset 7. Il est dit « bien-aimé », 1 Jean chapitre 4, verset 7. À quoi cela nous servirait-il à toi et à moi si nous connaissons l'amour de Dieu et n'avions pas compris qu'il nous a aimés? Que nous sommes des bien-aimés de Dieu, aimés de l'amour divin intime. Bien-aimé, verset 7, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Pourquoi il y avait en Caïn la haine, l'envie, la jalousie, le meurtre et l'homicide? Parce qu'il n'était pas de Dieu. Il était du malin. Vous pouvez le voir directement ici en regardant à gauche dans vos Bibles. 1 Jean chapitre 3, il nous est dit de ne pas aimer à la manière de Caïn. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Car voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Verset 12. Non pas à la manière de Caïn qui était un enfant du diable et qui tua son frère. Ça, c'est une telle différence comme entre Dieu et le diable. Entre la nature de Dieu et la nature du diable. Les hommes qui sont nés de Dieu ont Dieu comme Père céleste et celui qui est né de lui doit avoir sa nature. Et dans le langage populaire, on dit que les enfants ressemblent rarement à d'autres parents. Et c'est certainement vrai pour Dieu. Celui qui est né de Dieu est né de cet amour divin par la parole et par l'esprit. Par la puissance de la rédemption, par le sang versé de l'agneau. Et si nous croyons tout cela de tout notre cœur, et si nous prions Dieu de le mettre en pratique en nous, le manifester en nous, alors la fin doit devenir semblable au commencement. Alors un jour, il devra être dit, voyez comme il s'aime. Et frère Rousse, vous connaissez tous les cantiques mieux que moi. Mais il est dit, alors dans ce cantique, il n'y aura plus de paroles dures. Il y a suffisamment de cantiques qui expriment tout cela. Oui, vraiment sans effort, sans devoir arborer un deuxième visage. Du fond du cœur, la chose est là. Oui, que nous n'ayons pas besoin de le faire, d'aller le chercher, mais que la chose soit là. Et je m'en réjouis. Je n'ai pas reçu grand-chose de Dieu, mais c'est une chose que j'ai sans doute reçue en cadeau de Dieu, l'amour. Il est dit ici, 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est engendré de Dieu et connaît Dieu. » Beaucoup ont une connaissance de Dieu qui vient dans la tête. Oui, qui commence dans la tête et qui se termine aussi dans la tête. Mais il y a une révélation dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, lorsque Frère Branham a dit dans une prédication, Vous êtes tous deux dans l'erreur, vous les trinitaires et vous les unitaires. Dieu ne peut pas être composé de trois et être un, et il ne peut pas prier à lui-même et se parler à lui-même. Et puis vous pouvez vous imaginer comment les uns et les autres étaient troublés parce qu'ils ne pouvaient pas ordonner les choses de manière divine. Mais c'est le Seigneur qui nous a aimés et nous pouvons nous savoir être ses bien-aimés et il nous conduit dans ses secrets. Car l'amour vient de Dieu et tout homme qui aime est né de Dieu. Vous savez bien que Dieu a offert ou a proposé son amour à tous, mais tous ne l'ont pas accepté. Il en est de même pour nous. Nous pouvons proposer notre amour divinement reçu à tous ceux qui sont autour de nous. Et s'ils n'acceptent pas cet amour divin, qui peut le changer? Même notre Seigneur, lorsqu'il marchait sur la terre, ne pouvait pas le changer. Il est dit dans la suite, 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Est-ce que ce n'est pas là une parole sérieuse? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et si quelqu'un dit ensuite, « Oui, je n'ai rien contre lui, mais je ne veux rien à faire avoir lui. » Oui, cela passe très bien ensemble. Oh, quelle déception! Oui, au grand jour. Oui, ce sera pour beaucoup insupportable. Ce ne sont pas les non-croyants qui seront déçus. Vous pouvez me le croire, vous pouvez le croire. Ils ne veulent pas entrer dans la gloire. Ils ne font pas seulement leur plaisanterie en ces jours dans lesquels nous sommes, mais ils le feront toujours. Ils veulent aller là où tous leurs amis sont. Les non-croyants n'ont pas d'espoir. Ils ne chantent pas l'enlèvement, ils n'écoutent pas de prédication sur le retour du Seigneur. Ils ne seront pas déçus. Ils ne peuvent pas être déçus. Ne peuvent être déçus que ceux qui ont pensé avoir une espérance et qui s'aperçoivent ensuite qu'elle ne s'est pas réalisée et que la porte, oui, est fermée. C'est alors qu'on commence à cogner la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» comme dans Matthieu 25, 11. Et puis à la fin, ce sont les vierges pures et saintes qui vont à la rencontre du Seigneur, l'époux. Ça, c'est la déception. Et bien aimé, elle doit nous être épargnée à cause du prix qui a été payé à Golgotha. Non, pas à cause de nous, mais à cause du prix, de ce prix précieux, cette déception doit nous être épargnée. Et c'est pourquoi nous voulons tout mettre en œuvre, comme Paul l'a dit, pour présenter l'Église au Seigneur. Afin, oui, présenter l'Église au Seigneur sans tache, ni ride, ni rien de semblable aux yeux de Dieu. Du point de vue terrestre, personne ne regardera lui-même, mais toujours regardera vers les autres. Mais c'est ainsi depuis le début. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cela. Mais nous devons nous habituer à nous voir les uns les autres du point de vue de Dieu par Golgotha, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors tu vois d'abord le sang versé, la réconciliation, la rédemption. Et de l'autre côté, tu vois un enfant de Dieu, cher, précieux, bien-aimé, lavé dans le sang et rien d'autre. Et si tu vois autre chose, c'est que tu es passé à côté de Golgotha. Est-ce vrai ou non? Où sont les amen? C'est ça la parole de Dieu. Ça, c'est les Saintes Écritures. Combien de temps allons-nous faire patienter Dieu et ne pas croire ce qu'il a dit? Nous devons croire. Et comme le frère l'a dit, nous aspirons à ce que Dieu se révèle. Il manque quelque chose. Je vais vous le dire ce soir. Ce qui nous manque, c'est une révélation claire de ce qui s'est réellement passé à Golgotha. C'est ainsi et pas autrement. Qui a travaillé en lui-même dans les premiers temps parmi ceux qui sont devenus croyants? Pour eux, Golgotha était tout. Et chacun regardait chacun selon l'esprit et tous aimaient, tous et suivaient le Seigneur. Celui qui n'aime pas, comme il est écrit, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9, 1 Jean 4, l'amour de Dieu, oui, nous a été manifesté, ou a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils engendré. Entre parenthèses, il est écrit unique, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. En ce que Dieu a envoyé son Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous sommes aussi tenus de nous aimer les uns les autres. Amen. Si Dieu nous a tant aimés, si ardemment, si intimement, comme tel que nous étions, tel que nous sommes et tel que nous serons, si quelqu'un veut se maquiller d'une certaine manière ou d'une autre pour venir ensuite vers le Seigneur, alors le Seigneur le renverra directement. Nous devons venir au Seigneur tel que nous sommes. Celui qui se présente devant le miroir de Dieu ne doit rien mettre de côté. Oui, mais que celui qui se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, qu'il n'oublie pas à quoi il ressemblait avant, et qu'il remercie le Seigneur, Dieu, qui a fait de lui quelque chose de nouveau. Et je pense que nous le croyons tous de tout cœur. Pour terminer, voici ce qui est dit dans le verset 2 de 1 Jean 4. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure continuellement en nous et son amour est parvenu à la perfection en nous. Aussi certain que Dieu a mené à bien son œuvre dans l'Église, aussi certain il gardera son amour dans ses bien-aimés, dans son peuple, jusqu'à la fin, et les fera parvenir à la perfection dans cet amour. Un cœur et une âme. Si l'on veut chercher le mot « amour » quelque part, on peut trouver suffisamment de passages bibliques. Colossiens 1, la dernière partie du verset 7, ou bien simplement le verset 8. Colossiens 1, verset 8, « Et qui nous a aussi appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Et ensuite le verset 12, « Rendez grâce au Père. » Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Il nous a en effet délivrés de l'emprise des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, dans Éphésiens, au chapitre Éphésiens chapitre 3, au verset 17, il est dit, Éphésiens 3, verset 17, « Afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi et que vous soyez profondément enracinés et établis dans l'amour. Verset 18. Afin que vous soyez capables de comprendre, en union avec tous les saints, la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur du conseil divin de salut. Verset 19. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous parveniez à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça aussi, c'est un passage biblique très important. Il est dit ici que nous devons premièrement être profondément enracinés et solidement établis dans l'amour, ce qui nous rendra capables de saisir en union avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de tout le conseil de salut de Dieu. Cela ne peut être dit plus clairement. Si nous sommes enracinés dans cet amour divin, oui, ou si nous ne sommes pas, si nous n'avons pas encore été enracinés dans cet amour divin, si nous ne sommes, ni nous sommes pas solidement établis, mais si nous aimons aujourd'hui et pas demain, si aujourd'hui cela nous convient et pas hier, et ainsi de suite, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est humainement, même humainement, ce n'est pas juste, et encore moins devant Dieu. Non, il s'agit ici de faire en sorte que vous, peut-être aussi le verset 16 est important, verset 16, Éphésiens 3, qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire d'être revêtu de la puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi. Pas seulement une visite, pas seulement bénir dans l'assemblée, mais fasse sa demeure, entre, s'installe et reste en vous. Le fait que le Seigneur soit présent dans l'assemblée, c'est une promesse valablement éternelle ou éternellement valable. Elle subsiste tant que Dieu, le ciel, sa parole existe, car personne ne pourra plus jamais la retirer. Mais cela ne nous aide pas pour toujours. Seulement avoir des réunions bénies, oui, nous les avons derrière nous. Nous les avons eues en ce lieu, oui. Beaucoup ont témoigné qu'il y avait des cantiques célestes, la gloire de Dieu, les cantiques des anges et tout. Et nous qui étions présents, nous nous sommes également réjouis. Nous n'ayons rien de ce que Dieu a fait, mais il ne peut y avoir quelque chose de durable que là où le Seigneur lui-même demeure, où il ne vient pas seulement pour distribuer les dons et les bénédictions et tout le reste, mais là où il demeure véritablement. Et c'est ce passage biblique, verset 16 d'Éphésiens chapitre 3, qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire. Et la richesse de sa gloire est grande. Quand nous pensons à la richesse de sa gloire, nous ne savons pas où doit arriver la fin de nos pensées. Car comme Dieu est d'éternité en éternité, sans commencement ni fin, c'est ainsi que la richesse de sa gloire. Et il est dit ici dans Éphésiens 3, verset 16, qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, par son esprit. Non, pas par toi, pas par moi, pas par nous, mais par son esprit, d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Pourquoi notre Seigneur a dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La bonne volonté ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de l'huile dans le moteur. Il faut que quelque chose s'allume. Il faut qu'il y ait un feu, une étincelle. Ce n'est qu'alors que quelque chose se met en mouvement. Verset 16, « Qu'il vous accorde d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » Oui, en fait, je me réjouis de cette parole. Car si c'était le prédicateur qui devait le faire ou quelqu'un d'autre, où serions-nous? Oh, comme Dieu est glorieux, il fait tout en tous. Il a racheté par amour. Il nous a conduits par amour de connaissance en connaissance et de clarté en clarté. Il nous a entourés d'amour, il nous a comblés d'amour, mais maintenant, il ne veut pas travailler de l'extérieur vers l'intérieur, mais il veut travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, il veut faire sa demeure en nous et nous revêtir de la puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ fasse son habitation dans vos cœurs par la foi et que vous soyez profondément enracinés et solidement établis dans l'amour. Alléluia. Nous voulons prendre cette parole au sérieux ce soir, car une chose est liée à l'autre. Chaque parole de Dieu, et en particulier lorsqu'elle est placée dans son contexte, est prononcée ainsi, dire une après l'autre. Alors, oui, je vous en prie, il n'y a pas de faille. Il n'y a plus rien, tout est lié ensemble, tout simplement. Et nous voulons que cela demeure ainsi. Verset 16, Éphésiens 3, « Qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 17, « Afin que Christ fasse son habitation dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour. » Verset 18, « Afin que vous soyez capables de comprendre en union avec tous les saints la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur du conseil divin du salut. » Ça, c'est un des passages bibliques les plus glorieux. Et si nous lisions encore un autre passage, alors ce passage serait aussi parmi les plus glorieux que l'on puisse lire. La parole de Dieu est devenue si précieuse pour nous et elle nous interpelle. Et si ce soir, nous disions au Seigneur, « Précieux Dieu, tu nous as parlé par ta parole. » Nous aimerions que cette parole et ces promesses, oui, ainsi que ce qui est exprimé et écrit ici, que tout cela devienne une réalité en nous. Équipe-nous de la puissance de ton esprit. Fais que nous soyons profondément enracinés dans ton amour et prends-nous, Seigneur, par la foi. Ne l'oubliez pas, la foi est le lien, oui, avec toutes les promesses de Dieu. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, nous n'obtenons rien. Mais devons-nous faire des efforts pour croire? Non. Dieu nous a donné par sa parole une foi inspirée par l'Esprit. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de croire, n'est-ce pas? La parole de notre Dieu est si précieuse, si vraie et si réelle. Nous ne pouvons pas faire autrement que de croire. Oui, pour terminer, laissez-moi lire cette dernière glorieuse parole. Mes yeux sont tombés dessus lorsque le frère Alfred Rast l'a lu. Il est dit, où est-ce que tu as lu, frère? Oui, dans le chapitre 13, verset... Oui. Jean chapitre 13, verset 1. Je dois lire le verset tout entier à cause de la dernière partie qui est le point. Jean 13, verset 1. Avant la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, prouva aux siens qui étaient dans le monde l'amour qu'il avait pour eux jusqu'au dernier moment. Ça aussi, c'est un passage biblique que j'aime de tout cœur. Il est dit à la fin du verset, jusqu'au dernier moment. Pas seulement jusqu'à la crucifixion ou la croix, mais encore après, que la paix soit avec vous. L'amour de notre Seigneur pour les siens n'a commencé nulle part et ne se termine nulle part. Cet amour était, est et sera. Il est dit ici au verset 1, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, oui, il prouva, Jésus prouva aux siens qui étaient dans le monde l'amour qu'il avait pour eux jusqu'au dernier moment. Maintenant, il sait que nous nous apprêtons à quitter ce monde. Ne doit-il pas avoir pour nous jusqu'au dernier moment l'amour dont il nous a aimés? Alléluia! Croyez-vous cela? Quand je voyageais seul en Israël, j'allais toujours dans la maison de Lazare. Je crois que c'était à Béthanie. Il faut que je vérifie moi-même. En tout cas, là où il s'était passé quelque chose de spécial. Et lorsque le Seigneur a levé ses mains et a béni les siens, et qu'il a été enlevé du milieu d'eux en les bénissant, qu'ont-ils dû ressentir dans leur cœur? Alléluia! Le Seigneur les a quittés en les bénissant. Il a aimé profondément tous ceux qui lui ont été donnés par le Père. Gloire à Dieu! Alléluia! Et j'insiste sur ce point, volontairement ou non, comme le disent les Écritures. Tous ceux qui m'ont été donnés viendront à moi. Selon Jean 6, verset 37. Et je ne perdrai aucun d'eux. Tous seront là. Et vous verrez combien, oui, là aussi, Dieu a glorieusement annoncé les choses à l'avance par la prophétie. Parfois, j'en arrive à dire, Seigneur, cela fait, oui, bientôt 30 ans et des milliers de prédications sont passées sur mes lèvres. Qu'est-ce que je peux encore dire? Sur quoi puis-je encore prêcher? Oui, mais nous avons ici une source éternelle. Alléluia. Quand nous pensons que rien ne va plus ou qu'il n'y a plus rien, c'est là que la chose commence vraiment. Et alors, on peut presque dire, Seigneur, je ne peux pas supporter tout cela. Dieu et la parole de Dieu sont si merveilleuses. Il a aimé les siens de tout cœur et de toute son âme. Et il les aimera. Il a aimé, oui, de tout son cœur et intimement les siens. Et il les aimera jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ses bien-aimés se présentent devant lui. Et ce sera pour nous un moment glorieux. Cette parole nous a aussi été lue. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Selon Jean 14, versets 2 et 3. Regardons donc au-delà de tous les tracas et de toutes les convulsions de ce monde. Oui, de toute façon, ce monde ne mérite pas que nous le traversions, car il n'a pas reconnu qui nous sommes vraiment, à savoir des enfants de Dieu. Dieu, oui, des êtres humains que Dieu a graciés pour l'éternité. Il nous veut du bien à toi et moi. Et aujourd'hui, nous voudrions le lui dire. Seigneur, nous sommes ici. Accomplis chaque promesse et chaque parole en nous. Équipe-nous de la puissance du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Fais ta demeure en nous. Ne nous visite pas seulement. Oui, c'est bien quand tu nous visites, mais demeure en nous. Demeure en nous. Car tu as dit, je viendrai et je ferai ma demeure en vous. Telles sont tes promesses. Et alors, il fera aussi tout le reste. Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu. J'ai été surpris le dimanche dernier, car avant la réunion, j'ai pris un café avec deux frères, et ce vieux frère Schumacher et le frère, c'était le vrai, ce vieux frère Schumacher et le frère Tsing. Et ce vieux frère Schumacher a dit, « Frère Franck, tout à coup, j'ai dû me lever dans ma chambre. » Et il dit, « J'ai dû lever mes mains. Et puis, ces larmes coulaient déjà. J'ai dû lever mes mains pour prier pour toi. Et puis, j'ai appelé le frère Tink et je lui ai dit, là, dans l'atelier où tu te trouves, élève tes mains et prie pour le frère Frank. Alors, oui, les larmes ont commencé à couler de mon côté. Oui, les larmes ont commencé à couler. De tels frères qui lèvent les mains saintes, qui participent au combat spirituel, qui voient la responsabilité que l'on a prise. Si l'on se trouve maintenant, malheureusement ou par grâce, oui, en première ligne. Mais Dieu nous unira de manière à ce que nous nous soutenions les uns les autres et que nous soyons totalement unis dans l'amour divin tel qu'il nous a été donné, tel qu'il nous l'a été donné à toi et à moi, Golgotha. De toute façon, notre amour n'est pas l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne va pas aller très loin. Mais si nous avons l'amour qui s'est manifesté à Golgotha, cher ami, alors tout va bien pour nous. C'est cet amour qui y entrera. Et Frère Branham a entendu la voix disant, « Seul l'amour parfait entrera ici. » Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Père Céleste, de tout cœur, je te prie, oui, ensemble avec mes bien-aimés frères et sœurs, je te prie de faire en sorte que ces paroles deviennent très bientôt des réalités en nous et que tu puisses te révéler à la fin. Alléluia, comme cela s'est passé au commencement. Seigneur, nous te remettons tout. Oui, tu le sais de toute façon. Et nous te remercions de ce que tu feras toutes choses bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.